Rebon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes, pas trop froid. Hein, ça commence en douceur hein, quand même. Cette semaine, on a eu la halte des lumières, puis on s'est gelé dehors à la pluie, mais c'était le fun parce qu'on était ensemble. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on c'est agréable, le fait qu'on est ensemble, on connecte ensemble, on est là pour les gens. Fait que ça a été un super bon temps. Ce matin, on continue en fait la série sur les actes. On a décidé de la prolonger en fait jusqu'à la série de Noël. Il y a tellement de choses à dire sur les actes. Ça serait infini. Je pense qu'on pourrait passer honnêtement l'année sur le livre des actes et encore. Hein? Donc, le livre des actes, le dernier message qu'on a eu, c'était avec Stéphane, justement, acte de courage, excellent message. Puis ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y, c'est vraiment bon. Puis je fais encore la plug avec les podcasts parce que ça faisait longtemps que les gens nous le demandaient. Il y avait moins de stabilité au niveau de la technique, mais là, on a Lindia qui est là, qui est comme qui enregistre chaque message, fait qu'on peut les rendre accessibles. Fait que merci Lindia pour ça. On est super bénis. Fait que ce matin, c'est ça, on continue notre livre des actes. En fait, on voit un peu l'idée derrière cette série-là, c'est de voir un peu les actes. En fait, c'est les actes de Jésus qui continuent, mais sous une autre forme. Jésus, il a dit à un moment donné à ses disciples, « Il est avantageux que je m'en aille. » Puis eux, ben, dans leur compréhension, ben, c'était un peu difficile. Pourquoi c'est avantageux? Ben non, Jésus, on veut que tu restes avec nous. C'est quoi cette affaire-là? Que tu repartes. Il a dit non, c'est avantageux. Parce que Jésus, il ne faut pas oublier qu'il était limité à son corps. Hein? Il était limité à son corps physique sur la terre avec ses disciples. Mais quand il a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vais vous envoyer mon esprit. Je vais vous envoyer, en fait, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu qui nous envoie. Comme c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que Jésus, finalement, il n'est pas limité seulement à un endroit, mais il peut être toujours avec nous tout le temps. Donc, c'était ça la promesse, puis c'est ça qui est arrivé. Puis, dans ma lecture de la Bible cette semaine, je suis dans Exode, puis je relis Actes encore et encore, mais dans l'Exode 33, c'est ce que le peuple avait demandé à Dieu, dans le fait de dire, ben si tu marches avec nous, c'est comme ça que les gens vont savoir qu'on t'appartient, si tu marches avec nous. Puis Dieu se manifestait au travers soit de la colonne de fumée ou de la colonne de feu. On l'a vu avec l'Exode, la sortie d'Égypte. Bien, le fait que Jésus, j'étais là, « Wow, c'est extraordinaire, Seigneur. » On n'a même pas regardé une nuée, tu es avec nous. Par ton esprit, tu es avec nous, tu veux être avec nous. Fait que c'est unique ce qu'on vit dans l'histoire, de dire que Jésus est avec nous en esprit. Il est là, il est présent, sa présence est là. Donc, puis c'est ce qu'on a vu au travers de la série, en fait, ça veut dire quoi, ce Saint-Esprit-là, dans la vie des hommes et des femmes ordinaires comme nous, en 2024? Est-ce que l'Église, c'est encore pertinent, encore aujourd'hui? C'est-tu quelque chose de dépassé? C'est-tu quelque chose d'arriéré? En quoi le Saint-Esprit agit encore dans nos vies? Comment? Puis comment l'Église est pertinente aujourd'hui? Comment l'Esprit rend l'Église pertinente aujourd'hui? On a vu acte de promesse, acte d'unité, acte de mission, acte de sagesse, acte de courage. On va voir acte de transformation la semaine prochaine. Il va rester acte de foi. Je l'ai gardé pour la fin. Mais aujourd'hui, c'est acte de générosité. Vous allez vraiment aimer ça, je vous le dis. Je vais commencer par prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es là, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu fais une œuvre beaucoup plus grande que ce qu'on peut comprendre, imaginer. Puis, Seigneur, on veut te soumettre nos cœurs ce matin. On veut te soumettre nos pensées ce matin. Seigneur, on a besoin des fois d'être brassés dans certains plans de notre vie, dans certaines sphères de notre vie. Mais Seigneur, tu le fais si bien. Tu viens avec ton esprit, tu nous convaincs, Seigneur. Puis je prie ce matin qu'il y ait des guérisons ce matin, qu'il y ait des restaurations ce matin. Je prie, Seigneur, que là où il y avait du flou, ça devienne clair. Seigneur, on veut te laisser toute la place ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Le Saint-Esprit fait une œuvre. On l'a vu au travers de la série. Le Saint-Esprit, fondamentalement, il vient unir les croyants. Il vient nous unir à Dieu, mais il vient unir les croyants entre eux aussi. Il nous prépare pour la mission. Il nous envoie en mission. Il nous équipe pour la mission. On a vu tout ça, il nous donne du courage, de la sagesse. T'sais, c'est vraiment le Saint-Esprit, on dit pas, c'est pas juste le consolateur. Oui, il vient nous consoler, mais il vient nous instruire, il vient nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Okay? Mais une des particularités aussi que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous rend généreux. Pourquoi? Mais parce que Dieu est généreux. On a un Père généreux. Puis c'est un des fruits qui découlent de la présence de Dieu en nous. Puis ça, on le voit dès les débuts de l'Église, dès les débuts des chapitres du livre des Actes. Les premiers chapitres, les croyants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient entre eux, ils priaient, ils partageaient, ils mettaient tout en commun. Donc, à la fin, on va tout mettre en... C'est pas vrai. Je m'en vais pas là. Mais c'est juste l'idée derrière ça, de dire, il y avait une préoccupation, en fait, pour les gens, pour les uns les autres, de dire, hey, on veut pas qu'un manque de quelque chose, on va partager ensemble. On va s'assurer que tout le monde est assis, que tout le monde est pour ce qu'il faut pour vivre. Fait qu'il y avait cette notion-là de partage, de générosité qui était déjà là, mais pas juste au niveau des finances, mais c'était au niveau de la nourriture, c'était au niveau de l'hospitalité, c'était au niveau de plein de choses. Puis on le voit aussi, quand Dieu parle de générosité, c'est pas juste question d'argent. C'est la question, on est généreux avec nos vies, avec nos dons, avec les talents qu'il nous a donnés, avec notre temps aussi. Donner du temps, c'est généreux. Quand tu décides de donner du temps à quelqu'un, tu as arrêté du temps quelque part, que tu ne donnes pas ailleurs. C'est un acte de générosité. Mais la Bible parle aussi d'argent. Puis je sais que c'est quelque chose qu'on est plus ou moins à l'aise. Mais quand on regarde, il y a plus de 2000 références aux finances dans la Bible, à l'argent, à la générosité. Donc, c'est quand même pas un sujet anodin. La Bible va parler de plein de choses, on le sait. Ça parle de foi, ça parle de Jésus, ça parle même de sexualité. Il y a un livre même très explicite, hein, le Cantique des Cantiques, pour ceux qui l'ont lu. Sinon, je vous invite à lire. Mais c'est la Bible n'a pas de tabou, finalement. Il n'y a pas de tabou. Je vais essayer de ne pas tomber. Puis, entre autres, en ce qui est question d'argent. Fait que c'est ce qu'on va voir ce matin. Puis, la Bible adresse ça, la gestion financière. Comment c'est important d'avoir une saine gestion financière. Comment c'est important de gérer nos possessions matérielles. Il va parler de la générosité, du partage. Elle va parler aussi du fait d'être égoïste avec ce qu'on a. Elle va adresser ça, le fait d'être intègre dans nos finances, dans nos affaires. Une gestion sage, je l'ai dit, de notre argent, des responsabilités que Dieu nous donne, puis Dieu nous donne l'abondance des fois, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Bible adresse la pauvreté aussi. La Bible adresse plein de choses. Puis même dans les évangiles avec Jésus, je trouve ça particulier. Mais en fait, de un, on voit que Jésus n'aurait pas pu faire son ministère sans des dons financiers, parce qu'il se déplaçait de ville en ville. Puis ça dit... qu'il y a des femmes qui étaient riches, qui pourvoyaient pour Jésus dans son ministère. Ils pourvoyaient. Ils étaient là. Elle y avait à cœur de donner à Jésus pour que Jésus puisse être libre de faire ce qu'il avait à faire, puis d'aller, puis d'annoncer la bonne nouvelle. Fait que ça, c'est mention. Puis il y avait aussi, je trouve ça intéressant, cet épisode-là, où Jésus est assis à un moment donné, dans le temple. Puis il y a comme un moment où les gens vont porter des dons dans le milieu. Et puis Jésus est assis, puis il observe, puis il regarde. Qui donne, puis combien? C'est quand même particulier. Tu sais, tu te dis, ben non, c'est pas important ça pour Dieu, tu sais. Non, mais Jésus est là, il est assis, puis il regarde. Qui donne, puis combien? Je vais revenir sur cette histoire-là plus tard, mais le but, c'était pas de dire, c'était pas le montant d'argent, mais il a vu une femme veuve qui a donné de son nécessaire. Jésus, elle a donné plus que toutes les autres. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il ne regarde pas, c'est pas tant qui donne combien, mais le cœur. La personne qui donne, mais avec quel cœur elle donne aussi. Ce qu'on voit, c'est que la générosité, ce n'est pas une question d'argent. Pas que. La générosité, c'est avant tout une question de cœur. En premier, ça part du cœur. La générosité, ça n'a rien à voir avec la grosseur de notre compte en banque non plus. On peut être riche puis pas être généreux, puis on peut être pauvre puis être hyper généreux. L'inverse aussi. C'est pas une question de combien j'ai. Puis souvent, des fois, on entend, « Oh, mais quand je vais être bien financièrement, là, je vais pouvoir donner. Quand mes choses vont être réglées, là, je vais pouvoir être généreux. Là, je vais pouvoir donner. » Puis en fait, c'est pas une bonne mesure. Parce que si on est en train de dire, en fait, que je vais pouvoir exprimer ma bonté selon la quantité d'argent que j'ai. Puis en fait, ce que Jésus vient enseigner, c'est que ce n'est pas la quantité d'argent qui doit désigner si tu as un cœur bon ou pas, si tu vas être généreux ou pas, en fait. Paul l'adresse dans Timothée, il va dire l'amour de l'argent. En fait, c'est que je suis en train de placer ma confiance puis mon amour dans quelque chose, en fait, que je contrôle pas nécessairement, que je pense contrôler. L'amour de l'argent, en fait, c'est à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Qui aime ça, avoir de l'argent ici? Moi, je lève ma main. Tout le monde, hein? Ben, je veux dire, tu sais, ça prend de l'argent pour vivre. C'est le fun d'avoir de l'argent, je veux dire. Puis ce que Paul adresse ici, c'est que c'est pas l'argent le problème. Ça n'a jamais été l'argent le problème, mais c'est l'amour de l'argent. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu te lies à quelque chose. Puis là, ben, tu travailles pour cette chose-là. Puis tu te rends compte avec l'argent que ça ne sera jamais assez. Tu vas toujours en avoir plus. Il n'y en aura jamais assez. Puis à un moment donné, ben, c'est que ça qui va accaparer tes pensées puis même diriger tes actions. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Puis tout le faux sentiment de sécurité que ça vient aussi avec. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'argent peut devenir soit un maître ou un serviteur, comme ça devrait être. Puis ça, c'est dans toutes les choses de notre vie, que ce soit nos téléphones, nos tablettes, nos occupations, les hobbies, peu importe, notre travail, nos relations. Est-ce que ces choses-là sont en train de me dominer ou ils me servent dans ma vie? À quelle place je les situe dans ma vie? Quelle priorité je leur donne? Jésus va dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Parce que tu vas aimer un, puis tu vas haïr l'autre. Il y en a un forcément qui va dominer sur l'autre. C'est impossible d'être égal. Il n'y a pas de rapport de force égale. Je l'ai dit tantôt, on a besoin d'argent pour vivre. Le monde roule avec l'argent. Le monde fonctionne avec l'argent. On règle beaucoup de problèmes et des souffrances avec l'argent. On paye les factures avec l'argent. C'est important. C'est l'amour de l'argent. Quand Dieu touche notre cœur, forcément, notre portefeuille va être touché aussi. Il faut beaucoup d'amen. Merci, Stéphane. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de continuer. Je vais leur dire, quand Dieu touche mon cœur, forcément, mon portefeuille va être touché aussi. Amen. S'il y a des signes, un des signes que le Saint-Esprit a touché notre cœur, nos finances vont être touchées aussi. On ne verra pas nos finances de la même façon. On ne gérera pas nos finances de la même façon. La parole dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où il est mon trésor? Je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'étais à l'épicerie, et puis j'attendais en fait pour payer, j'étais avec mon panier, puis il y avait une femme en avant de moi. Puis là, c'est là que tu dis, oh, il n'y a pas de hasard. Hein? La femme en avant de moi était là, puis là, elle passait son épicerie, puis là, elle s'est rendue compte à un moment donné que, oups, ça dépassait probablement son budget, fait qu'elle enlevait des items. Ah, oh, ça, je vais enlever ça, ça, je vais enlever ça, ah, oh, ça, je vais enlever ça. Puis là, tu dis, waouh, tu sais, il y a comme une petite lutte là, qui est venue à l'interne, là. Bon, OK. C'est pas pour rien que je suis là. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il est où mon cœur? Dieu ne s'intéresse pas à ton argent en premier. Dieu ne s'intéresse pas à ton argent. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir quoi que ce soit. Mais il ne fera rien sans nous. Il veut le faire avec nous. Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent. Dieu, il est tout puissant. Il a toute la richesse du monde. Il est riche, mais il va se servir de nos ressources. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui. Dieu, il est riche, il est puissant, il peut intervenir comme il veut, quand il veut. Il a nourri 5000 hommes, hein, la multiplication des pains et des poissons, avec deux poissons, 5 pains, j'ai mail toujours. En tout cas, vous comprenez l'idée. Il a fait une multiplication avec ça, 5000 personnes, puis ça dit quoi? Qu'il y a 12 paniers remplis de restes qui sont revenus. Il n'y a rien qui limite Dieu avec nos ressources. Il n'y a rien. Il a même dit à un moment donné, il était avec un de ses disciples, il avait besoin de payer la taxe puis l'impôt, va pêcher le premier poisson que tu vois, puis ouvre-lui la bouche. Encore là, il aurait pu juste faire apparaître l'argent comme ça, mais il a engagé le disciple, vas-y, puis ouvre-lui la bouche. Il le fait avec lui, Dieu nous engage. Puis c'est la même chose quand il a nourri la foule avec les 5000 personnes. Les disciples ont été participants à ça. Allez les nourrir. Il a dit, allez les nourrir vous-même avec ce que vous avez. Puis Dieu a multiplié. Il y Il aurait pu juste faire apparaître des pains, des poissons comme ça dans les mains de tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Ça montre que Dieu s'intéresse plus à nous, en fait. Il est plus concerné par nous. Il peut tout avoir, la beauté qu'il veut, la richesse qu'il veut. Dieu a accès à tout ce qu'il y a de plus beau. Puis pourtant, il va s'intéresser à nous puis à faire les choses avec nous. On continue? J'aimerais vous présenter Corneille. Corneille. Corneille qui était un officier dans la troupe romaine, appelée la cohorte italienne. Fait que je lis dans Actes 10, versets 1 à 8. « Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. » Bon, il y avait à Césarée, je trouvais ça intéressant. J'ai fait des petites recherches. La ville de Césarée, on dit que c'est la deuxième ville en importance après Jérusalem. C'était quand même une ville importante, une ville non-juive en particulier. C'était reconnu pour être une ville non-juive. Donc, on voit que Corneille est là, lui qui était un non-juif, mais un peu converti au judaïsme dans une certaine façon. Et puis, dans cette ville-là, elle était reconnue en fait pour être une ville qui adorait une déesse de la fortune, quand même particulier. Et qu'on voit que les gens étaient très tournés vers l'argent, puis vers avoir de l'argent. Donc, j'imagine que cette déesse-là recevait des offrandes et des sacrifices pour avoir plus et plus et plus. Puis pourtant, on nous présente Corneille. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent. Et qu'on voit que lui, c'est différent. Il donne beaucoup d'argent. Il est dans une ville où il y a une déesse de la fortune, mais lui, avec son argent, il la donne au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » C'est quand même intéressant que Dieu a été touché par la foi de Corneille, mais par sa générosité aussi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et il les envoya à Jaffa. La générosité et la foi de Corneille ont attiré Dieu. Dieu est venu le visiter. Dieu aurait pu apparaître à Corneille là. Il a envoyé un ange qui a dit, là, va, envoie quelqu'un chercher Pierre. Encore là, il implique les gens. Dieu implique les personnes. Il aurait pu juste intervenir comme ça. La foi, la générosité attire Dieu. Puis ce qui se passe au même moment, c'est que Corneille envoie les personnes. Il y a l'apôtre Pierre qui est là, lui, dans une autre ville. Puis il décide que le lendemain, il monte sur le toit pour prier, il a faim. Puis là, il y a une vision. Il y a une vision, puis il voit comme un genre de nappe avec des animaux purs et impurs qui sont ensemble. Puis il y a un ange qui lui dit d'une voix, « Tue et mange. » Puis là, Pierre, il dit, « Ah, bien voyons, voir si je vais manger quelque chose d'impur. » Parce que pour les Juifs, il y avait des animaux purs, des animaux impurs. Eux, ils mangent cachère. Donc, il dit, « Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. » Puis, encore une fois, « Tue et mange » par 3 fois. Pierre, ça prend beaucoup de foi. Ça me rassure. Puis, à un moment donné, il a comme fait, « OK, Seigneur, tu sais, sans trop comprendre. » Puis, ça dit, il n'a pas compris sur le coup toute la signification de cette vision-là. Il n'a pas tout saisi. Mais au même moment, il y a des hommes qui sont arrivés, justement les hommes que Corneille a envoyés. Ils ont dit, on aimerait que tu nous suives. Corneille, notre maître, veut te rencontrer. Et puis là, ben, Pierre n'hésite pas, décide de les héberger puis de partir avec eux le lendemain. Puis là, Pierre arrive. Puis c'est seulement qu'arrivé sur place qu'il comprend que, wow, OK, là je comprends que Dieu fait pas de favoritisme. Parce que là, il rentre dans une maison qui était supposée être impure parce que Corneille n'était pas quelqu'un de pur selon les Juifs. Il n'était pas juif purement juif. Il adhérait aux croyances des juifs, mais ce n'était pas un juif. Donc, Pierre a comme tout s'est déclenché dans sa tête, puis c'est là qu'il a dit, « OK, je vois que Dieu ne fait pas de favoritisme. » Que je peux pas, tu sais, on ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas impressionner Dieu, on ne peut pas... Ce que Dieu est en train de démontrer dans ce passage-là, c'est que peu importe tes origines, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, c'est ton cœur qui va attirer Dieu. Puis c'est ce qui a attiré Dieu chez Corneille. La générosité de Corneille, c'est encore pire que ça. La générosité de Corneille est à l'origine de l'accomplissement, du début de l'accomplissement de la grande commission, aller faite de toutes les nations des disciples. C'est à partir de Corneille. Parce que quand Pierre a commencé à annoncer la bonne nouvelle à Corneille et à toute sa famille, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'avait même pas fini de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bang! Réveil. Puis là, après, ça s'est répandu. La générosité déclenche l'action de Dieu. Ma générosité va déclencher l'action de Dieu dans la vie des gens. En 2005, on vivait une situation super difficile comme famille. Il n'y a pas juste eu 2005, mais entre autres cette année-là, c'était assez particulier. On a vécu la maladie, mais comme tout le monde dans la famille, mon époux qui a failli mourir, avion, Montréal, coma, tout ça. Ça a été vraiment comme, je ne rentre pas dans les détails, ça a été difficile cette année-là. J'ai failli, c'est une année où j'avais mon deuxième enfant et j'ai failli mourir aussi. Ça a été aussi quelque chose. J'ai été malade, opérée, tout ça. Toutes les deux malades, perte d'emploi. Souvent, ce qu'on réalise, c'est que la maladie ne vient jamais seule. Et tous les aspects sont touchés souvent, hein, quand financiers, tout ça. Fait que c'était comme un gros, une grosse tempête, on va dire, une grosse période. C'était noir, tu sais. Fait qu'on était là, puis je me rappelle, là, tu sais, fatigue, pas d'énergie, malade, pas de ressources financières. Puis je me voyais avec deux jeunes bébés. Puis Noël s'en venait. Puis je me rappelle avoir dit au Seigneur, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'ai même pas de quoi offrir à mes garçons. Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas nous faire passer au travers ça. Puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Dieu s'est servi d'un non-croyant. Croyez-le ou pas, Dieu s'est servi d'un non-croyant. Il avait à cœur, lui-même vivait une situation difficile. Sa femme est en train de mourir. Puis, Dieu a touché son cœur pour dire, « Mais moi, je voudrais, je vis quelque chose de difficile, mais je voudrais que ça, tout ça ait un sens. » Fait que je voudrais faire un don à une famille qui est dans le besoin. Puis il avait frappé à la première église qu'il avait vue. Puis l'église, en fait, c'est l'église où on allait. Puis ils voyaient que, tu sais, on passait une période difficile, évidemment. Fait qu'ils ont dit, oui, on connaît une famille qui vit quelque chose de difficile. Fait que c'est ça, il est venu. Je me rappelle encore, on était dans un petit appartement dans le sous-sol. Puis là, ça n'arrêtait pas de rentrer, ça n'arrêtait pas de rentrer, ça n'arrêtait pas de rentrer. Des caisses de nourriture, des caisses de couches, il y en avait, je ne voyais plus ma cuisine. Je me suis mis à pleurer. Puis par-dessus ça, bien, il y avait même des jouets pour les garçons. C'était comme, OK, là, Seigneur, c'était comme flabbergasté. J'étais comme, wow, Seigneur. Mais ça montre que, tu sais, peu importe, même les circonstances difficiles ne sont pas un obstacle à la générosité. Il n'y a rien qui limite Dieu. Il a besoin de personnes qui vont lui dire oui, qui vont être sensibles, qui vont avoir un cœur. Dieu utilise les gens puis nos ressources aussi. On ne connaît pas l'impact de notre générosité. Des fois, on n'a aucune idée. Cet homme-là a pu voir, parce que bon. Mais des fois, on va donner et on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir. Mais c'est clair que ça en a un. Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme opportunité, comme on a vu avec l'histoire de Corneille? Qu'est-ce que ça va venir marquer dans le cœur des gens? On n'a aucune idée. Merci Seigneur des fois qu'on le voit, mais des fois, souvent, on ne le verra pas. Aujourd'hui, les gens trouvent quasiment plus normal de se faire insulter. Hein? On le voit sur les réseaux sociaux. Mais tu vas faire un acte de générosité envers eux, de bonté, puis wow, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une attrape. C'est vrai. C'est plus normal aujourd'hui de te faire insulter que de recevoir un geste de bonté. J'étais l'autre fois dans un café, pour ne pas le nommer, je nomme pas de café. J'étais dans un café, j'attendais pour me commander mon latte avec à l'érable. Puis là, j'étais dans la file, puis un homme en avant de moi, puis tu sais, je voyais par son allure un peu que c'était pas facile dans sa vie. Puis là, il commande un café, puis là, il veut le gros café avec des saveurs dedans, caramel brûlé, avec de la crème fouettée, puis tout le kit. Puis là, le caissier dit, oh, ben ça va être tel montant. Il dit, ah, oh, OK, ben un café latte d'abord. Fait que là, il dit, OK, oui, ça va être tel montant. Ah, oh, ouais. Un expresso? Ouais, ça va être, ah, oh, ouais, OK, ben un café fit. Là, moi, j'étais comme, OK, non. Moi, je suis là à attendre de commander mon café. Puis lui, c'est comme, il ne peut même pas se payer le café qu'il veut. Fait que là, j'ai comme, hey, j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit, ça va me faire plaisir, prends le café que tu veux. Si je te l'offre, ça me fait vraiment plaisir. Puis là, c'est comme, ah! C'est comme, puis là, même caissier, ah! Tout le monde se vire, là. J'étais comme, oh, c'était pas ça le but. T'es sûr? Oui, oui, je suis sûre. Ça me fait vraiment plaisir, prends le café que tu veux. Fait que, oh! OK, puis là, il y en a mis, tu sais. C'était correct, ça me faisait plaisir. Ben, tu sais quoi ton nom? J'ai dit, ah, ben, c'est Stéphanie. Puis après ça, je me suis dépêchée. Je veux pas qu'il pense que c'est une technique de grosse. Mais encore là, tu sais, Dieu nous met dans des situations. Puis des fois, je me demande, y a-t-il un test là-dedans, tu sais? Des fois, Dieu nous place dans des il n'y a pas de hasard. Je savais cette fois-là pertinemment, c'était pas un hasard. Tout appartient à Dieu, finalement. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Ma santé, c'est Dieu qui me le donne. Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Le travail que j'ai, les capacités que j'ai, l'intelligence que Dieu me donne, la capacité de parler. J'ai mon père qui a pas longtemps, il y a 2-3 ans, qui a fait un AVC. Puis mon père, c'était quelqu'un qui il travaillait avec sa parole, il animait à la radio, il a fait plein de trucs. Lui, sa parole, c'est important. Il a toujours travaillé avec sa parole. Puis là, il a perdu la parole. Puis je vois que, ah, c'est dur. C'est dur pour lui. C'est extrêmement difficile. Puis c'est là qu'on voit qu'on peut tout perdre. Tout appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tout ce que je suis. Ma santé. Ça dit même, qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu te vantes comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, tu peux améliorer ta qualité de vie en mangeant bien, en faisant de l'exercice et tout ça, mais ça n'empêche pas que tu peux perdre la santé comme ça. Une maladie arrive, une maladie frappe, un accident. Dans 1 Corinthiens 10, 26, « Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. » Tout appartient à Dieu. Des fois, j'étais avec mes gars, puis... Loïc! Mais tu sais, on est une famille, hein? Puis, je ne sais pas si c'est pareil comme chez vous, mais chez nous, tout se fait tout seul. La vaisselle se fait tout seul. Le ménage se fait tout seul. Tout se fait, c'est magique. Tout arrive comme par magie. Non, c'est pas vrai. On est une famille, puis on veut que chacun participe aux tâches, hein? Je pense que c'est normal. Puis des fois, on quitte, puis je dis aux gars, « Hey, ça serait le fun, les gars, si vous pouviez faire la vaisselle, tu sais, on s'en va. » Puis là, la blague, mon gars, il me dit, « OK, ouais, mais ça va être 5 $ Je dis, « Ah ouais, 5 $ OK, tapis, je vais compter toutes les fois où moi, j'ai fait ta vaisselle, où je t'ai fait à manger, où j'ai fait ton lavage, où je te procure un toit. Hey, j'ai dit, « Je pense que je vais être riche. » Mais vous comprenez l'idée, c'est que, tu sais, c'est un privilège. On est une famille, on s'aime, on veut prendre soin les uns des autres. Puis c'est un privilège de participer à la vie de famille, de dire « je vais faire ma part, je vais participer ». Comme parents, c'est normal de demander une contribution à nos enfants, non? Fait que si tout appartient à Dieu, puis tout vient de lui, est-ce que c'est anormal que Dieu me demande de contribuer? Si Dieu, c'est notre papa. Dans Proverbes 3, 9 et 10, ça dit « honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Fais ce que Dieu dit, c'est « Fais-moi confiance, puis tu manqueras de rien. Ose me faire confiance. Tu vas manquer de rien. » On n'est pas dans... Je veux aussi adresser, tu sais, il y a une bénédiction, au fait, de faire confiance à Dieu. Puis une bénédiction de faire confiance à Dieu avec nos finances.
puis de contribuer, il y a une bénédiction de rattacher à ça. Puis si on n'est pas dans une espèce d'interaction d'affaires avec Dieu non plus, c'est là que je vais aller, là. Je vais briser le faux concept de bénédiction. Ce n'est pas parce que tu donnes que Dieu va te redonner automatiquement. Ce n'est pas parce que tu donnes que Dieu te bénit, parce que tu donnes. Vous comprenez l'idée? C'est plus que ça. C'est faire confiance à Dieu avec ta vie, ça inclut les finances aussi. Puis Dieu, c'est un bon papa fidèle qui va prendre soin. Mais tu n'es pas dans une transaction d'affaires. Parce que je te donne, tu me donnes. Puis souvent, il y a des églises comme ça où ben, on a fait à croire aux gens que ben, plus, dépendamment du montant que tu donnes, tu vas être encore plus béni. Si tu donnes, tu vas être béni. Dieu va te bénir de cette façon-là. Puis c'est complètement faux. Ça, on appelle ça l'évangile de prospérité. C'est pas ça que Jésus enseigne du tout. Dans Lévitique 27, 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. » Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que fais-moi confiance. Je suis un bon papa fidèle, je vais prendre soin de toi. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est que tout appartient à Dieu. Quand on commence à regarder ça, tout appartient à Dieu. Dieu ne me doit rien. C'est vrai, Dieu ne me doit rien. Il ne fait que par amour. Dieu ne me doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Dans l'Ancien Testament, il y avait, on parle de dîme ici, OK? Le concept de dîme. Puis ça, j'entends des fois, puis souvent, « Ah, mais ça, la dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Ça, la dîme, c'est plus pour nous aujourd'hui. » Quand on parle de dîme, on parle de 10 % de tous tes revenus. Puis Dieu, c'est ça un peu qui demandait au peuple, « Apporte les premiers fruits de ta terre. C'est moi qui te bénis, c'est moi qui prends soin de toi. Mais viens, apporte ça. » Puis quand on adresse cette question-là, mais ah, c'est plus vraiment pour aujourd'hui, tu sais, on est dans le Nouveau Testament, Jésus est venu, puis hein. Mais réellement, la question au fond de nos cœurs, c'est quoi qui se cache derrière cette affirmation-là? Est-ce que c'est pour donner plus ou moins? Puis Jésus a adressé ça avec des certains croyants. Le fait d'être, OK, la loi te demande ça, mais là, on n'est plus sous la loi. OK, tu ne veux plus être sous la loi. Tu ne veux plus que ce soit une loi qui te régisse, qui régisse ta bonté, qui régisse, en fait, le fait de bien vivre en société. OK? OK. Fait que la loi, Jésus a dit, OK, la loi a dit de ne pas commettre de meurtre, parce que celui qui commet un meurtre, ben il va être passible de jugement. Hein? Normal. Tu veux suivre réellement Dieu? OK. Tout homme qui se met en colère, il est passible de jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni. Oh, OK. La loi a dit, tu ne commettras pas d'adultère. OK. Jésus va dire, OK, tu veux suivre Dieu? Ben, tu regardes juste une femme pour la convoiter. Tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Oh, OK. La loi donne une mesure, je dirais, pour arriver à bien vivre en société, pour avoir un certain minimum de bonté, pour ne pas qu'on s'entretue. Mais réellement, tu veux aimer Dieu, tu veux suivre Dieu. Bien, réellement, la manifestation de cet amour-là, Jésus va dire, bien, aime ton ennemi. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te font du tort. Prie pour ceux qui te maltraitent. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'amour, elle n'a pas besoin de loi. La générosité, elle ne devrait pas avoir une mesure de base. Que chacun, dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec amour. Pas par obligation, pas par manipulation, pas par culpabilité, par amour. Dieu veut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'amour, elle va toujours faire plus que moins. C'est ce que Jésus est en train de dire. La loi de l'amour va toujours faire plus. Donc, est-ce que la dîme, c'est encore pour aujourd'hui? C'est peut-être plus. Si on suit la logique de Jésus. Voulez-vous terminer cela? Ou on continue? Continue? Dieu aime celui qui donne avec joie, avec cœur, sans regret, je l'ai dit, pas de culpabilité, sans manipulation, selon nos capacités. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance avec une partie de ce que je te donne. En fait, c'est Dieu qui nous donne. Ose me faire confiance. On se trouve tellement d'excuses. Hein? Moi, je suis prêt à tout donner, mais mon argent. Hein? Ça m'appartient, ça. Mon argent. On se trompe nous-mêmes, puis on trompe Dieu par le fait même. Dans Malachie 3, 8, 9, ça dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. » Je poursuis Malachie 3, 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous incite à donner, à être généreux. Puis il y a des causes qui vivent par des dons. Il y a beaucoup de causes dans le monde, s'il n'y avait pas les dons, ne survivraient pas, ne vivraient pas. Qu'on pense à l'armée du salut, il y a tellement d'organismes qui existent, de causes qui existent, qui changent le monde, qui viennent au secours de la pauvreté, de la misère sociale, parce qu'il y a des gens qui donnent. Mais l'Église locale aussi a besoin de dons pour vivre. Parce que c'est quoi la mission de l'Église locale, en fait? Je vous laisse répondre. C'est quoi? Oui? Prendre soin? Yes? Yes? On veut briller? On veut déverser cet amour-là que Dieu nous donne? On veut être capable de le donner à la société? On veut être cette lumière-là qui brille, qui apporte l'espoir, l'encouragement? Puis on veut le faire en aimant les gens, mais ça, on veut le faire concrètement. On veut le faire concrètement par des gestes, par des actes, par des choses qu'on va mettre en place, des projets. Puis ça prend des dons. Puis souvent, on va dire, « Oh, mais moi, je donne, mais tu sais, mon église n'a pas vraiment besoin d'argent, tu sais, je n'ai pas le goût de donner au pasteur, puis que mon argent est un peu partout. » Puis en fait, ce que le texte est en train de dire ici, c'est que ton église, si tu bénis ton église, toi aussi, tu vas être béni en retour, parce que nécessairement, tu en bénéficies. Tu en bénéficies parce que tu vas permettre à des ministères de vivre pour qu'eux se consacrent justement à prendre soin. Tu vas aussi bénéficier parce qu'il va y avoir des projets mis en place, tu vas pouvoir participer, avoir une aide concrète dans la société. Puis ces hommes et ces femmes-là qui sont supposés de gérer ce qu'ils reçoivent sont redevables envers vous aussi parce que vous avez le droit de savoir où votre argent va. C'est tout à fait normal. Mais ça fonctionne par des dons. Parce qu'au final, c'est ça qui a dit, pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Jésus est venu donner la vie en abondance. Mais ça va aussi pour nos finances. On veut qu'il y ait la nourriture en abondance parce qu'on veut se développer, on veut se déverser dans les autres. Puis ça retombe sur nous, évidemment, encore. Merci Jésus. La générosité, c'est un acte de reconnaissance avant tout, puis de foi en Dieu. Parce qu'on reconnaît que tout vient de lui. C'est un acte d'adoration même. On le sait, l'adoration, c'est pas juste chanter des chants. Ça se traduit très concrètement dans notre vie, dans nos choix, avec nos sous aussi. On a un Père généreux. On a un Père généreux. Jacques 1,7, ça dit, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » On donne parce qu'on a un Papa qui est généreux, qui a été généreux envers nous et qui l'est encore. On ne donne pas pour être béni, mais on donne parce qu'on est béni. Puis c'est ce que David dit, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu pourvoit à tous mes besoins, Dieu est fidèle. Puis c'est le principe de l'arroseur arrosé, hein? Je donne, mais je reçois. Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand on s'aperçoit que quand on donne, on voit la lueur d'espoir, de la joie, qu'on apporte une paix dans des situations, dans des gens. Wow! Ce que ce geste-là produit, c'est extraordinaire. Puis c'est là que la joie vient. C'est wow! 2 Corinthiens 9, 10, 11, que celui qui fournit la semence au semeur, c'est qui fournit la semence au semeur? C'est qui nous fournit? C'est de qui tout nous vient? Dieu. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance à Dieu. Ça déclenche, en fait, la louange, la reconnaissance. Ça monte vers Dieu notre générosité comme Corneille. Même chose. Ça déclenche de la louange chez les gens. J'inviterai les musiciens à venir pour la fin de mon message. Ça va? Il y en a peut-être ce matin qui ont dit « Oh, que j'aurais dû rester couché un matin. » Dieu s'intéresse à toutes les sphères de notre vie. C'est ça qu'on voit. Plus on découvre Dieu, plus on découvre les Écritures. Quand Jésus a dit « Je suis venu vous donner la vie puis la vie en abondance », c'est dans toutes les sphères de notre vie. C'est pour ça que la Bible va adresser toutes les sphères, que ce soit les finances, l'importance de ne pas être pris dans des dettes, l'importance d'une saine gestion financière, notre sexualité, les relations qu'on a les uns avec les autres, le mariage, le travail, la santé émotionnelle, mentale, physique, même spirituelle. Dieu adresse tous ces sujets-là et plus. Dieu veut qu'on soit réellement libre dans toute notre être, pour être enrichi à tout point de vue, comme on l'a vu. Pour nous aussi enrichir à notre tour. Puis ce matin, là, c'est pas une condamnation, puis c'est pas d'amener une culpabilité, du tout. C'est pas ça le but du message. Mais comme il y a une rédemption pour chaque domaine de notre vie, je crois qu'il y en a une aussi pour nos finances. Puis ça commence aujourd'hui. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, peu importe. Aujourd'hui, il y avait une femme, il y a quelques années, c'est mon mari, en fait, c'est arrivé à mon mari, mais quand je dis que des fois, Dieu nous teste notre cœur, des fois. Hein. Il était dans un arrêt d'autobus, à l'époque, on habitait Québec, puis c'était plus facile de prendre l'autobus pour aller au travail, là. Il évitait le trafic. Et il attendait l'autobus pour revenir à la maison, puis dans l'arrêt d'autobus, il y avait une femme, puis il voyait que c'était une sans-abri, il était là, puis... Puis c'était une période aussi où c'était pas facile financièrement. Tu sais, on grattait, puis c'était dur. Puis, fait que tout ce qu'on pouvait garder, hein, on le gardait. Puis Hugues, cette journée-là, lui, il avait 20$ dans ses poches. Puis il disait, je le garde. Puis la femme a dit, est-ce que tu aurais de la monnaie? Tu sais, j'aurais besoin d'un bon café. Puis. Fait que. Elle dit, ouais, non, j'ai pas vraiment de monnaie, je suis désolée. Mais là, elle regarde, elle m'a dit, tu sais, je prends le papier aussi. Tu sais, hein, pas de hasard, hein. Et que il dit, tu sais, j'ai une lutte, là, mais. Ah, OK, Seigneur, c'est correct. Il a donné 20$. Peu importe ce qu'elle fait avec. Mais la vraie question de la générosité, c'est est-ce que j'aime finalement? C'est ça derrière la générosité. Est-ce que j'aime? La générosité, c'est un acte d'amour. La vraie générosité, elle me coûte quelque chose. Puis c'est pour ça que Jésus va dire à la femme qui a mis dans le pot, elle a mis plus que les autres. Parce qu'elle, ça y a coûté. Les autres, ils ont mis de leur superflu. Elle a mis de son nécessaire. Je ne suis pas en train de dire ici que, à ce matin, que vous êtes en train de... que je veux que vous preniez de votre nécessaire. Vous comprenez l'idée? Mais l'amour, ça coûte quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Parce que Jésus, ça y a tout coûté. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Il a payé le prix le plus élevé. Tu sais, on parle de Halle des Lumières, hein? On a eu ça cette semaine. Mais c'était un acte d'amour, ça. Aller se geler dehors à la pluie pour juste aimer les gens, avoir un sourire, leur offrir chocolat chaud, café, bouillon de poulet. Même pas mentionner qu'on est une église, là. C'est juste, on veut juste prendre soin des gens. C'est un acte d'amour, ça. C'est un acte de générosité. Puis je l'ai vu, la générosité. Tout le monde qui a participé, qui a amené des trucs. C'était beau de voir ça. C'était beau de voir ça. Mais ça nous a coûté. C'est vrai? Ça a coûté. Ça aurait été mieux d'être dans notre salon à écouter Netflix, hein? Au chaud avec une doudou. La générosité, veut, veut pas, ça fait partie de nous pareil. C'est pour ça qu'on lutte. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Ça nous vient d'en haut. On peut arriver à donner sans amour. Paul va le dire, hein? Quand même, je donnerai tous mes biens. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Mais tu peux pas aimer sans donner. C'est impossible. Si tu aimes réellement, tu donnes. Il y a une façon puis un moyen que Dieu qui utilise pour relâcher le ciel. C'est la générosité. Mais cet amour-là, elle coûte. Puis l'amour qui coûte, c'est celle-là qui impacte, qui transforme, qui touche, qui ouvre le cœur. Puis ça, ça peut venir juste de Dieu. Puis pour ça, Dieu a besoin de nous. L'Église a besoin de nous. Il y a plus a besoin de nous. Est-ce que j'aime? Puis pour aimer, on ne peut pas se forcer à aimer, hein? Pour aimer, ben, faut être rempli de la source d'amour qui est Dieu. Dieu aime, Dieu nous aime. Puis c'est un de mes versets préférés de la Bible, c'est l'apôtre Paul quand il parle dans Éphésiens 3. Il prie, c'est sa prière pour les croyants. Il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. C'est ma prière, c'est ce qui est le plus important. Je prie que tu sois enraciné puis fondé, parce que c'est ça qui va te faire comprendre l'amour de Jésus. Mais pas juste qu'il va te faire comprendre son amour, c'est que tu vas être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça parle ici de relation. Dieu, il aurait pu créer des robots, hein, qui obéissent au doigt et à l'œil. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Parce que dans l'amour, il y a de la liberté. Dans l'amour, il y a la liberté. Puis une relation vraie, c'est une relation pleinement libre d'aimer. Il n'y a pas d'obligation ici. Dieu oblige personne. Il n'oblige personne à donner. Son amour ne changera pas. Il n'oblige personne. Mais il veut qu'on soit pleinement libre de le faire avec amour. Parce que l'amour, elle coûte. Ta relation avec Dieu, elle coûte. Elle coûte quelque chose, ça te coûte du temps. Tu veux connaître Dieu, tu vas mettre du temps à part. Ça va te coûter. Ça va te coûter lire ta Bible, ça va te coûter parler à Dieu, avoir des moments pour recevoir de lui aussi, ça va te coûter. Mais c'est ça, l'amour, c'est ça la relation. Acte de générosité. Puis je refuse, moi ce matin, c'est, je finis avec ça. Le Saguenay, c'est reconnu pour être des gens au cœur dur. Puis j'ai souvent entendu des personnes, des ouvriers venir puis se faire avertir. « Wow, tu t'en vas au Saguenay, bonne chance. » Des gens au cœur dur. Bonne chance. Mais moi, je refuse ça ce matin. C'est pas vrai. Je refuse ça. Je brise ça ce matin. Que le Saguenay, c'est des gens au cœur dur. Le Saguenay, c'est des gens au cœur généreux. Puis je sais que Dieu va faire une œuvre. Parce que c'est là où les cœurs sont les plus durs que Dieu va se glorifier le plus. Et que je refuse ça ce matin. Je refuse qu'on est né pour un petit pain aussi. Je refuse que le Saguenay, il n'y a pas de ressources, c'est pas vrai. Dieu va faire une œuvre qui va nous dépasser. Mais Dieu a besoin de nous, par exemple. Il a besoin de nous, il a besoin de notre cœur, il a besoin de notre engagement. Puis si vous êtes comme moi ce matin, vous avez besoin d'être transformé dans votre cœur encore, d'être touché dans votre cœur. Je vous invite à vous lever. Merci, je ne suis pas toute seule. Merci. Je vais prier. Puis comme on dit, si tu es arrangé un peu avec le gars des vues, le chant, c'est « Je te donne mon cœur. » Je te donne mon cœur. Mais je vais prier avant. Puis ce matin, je veux briser la honte puis la culpabilité par rapport aux finances. Je sais qu'il y en a qui sont prêts avec la honte. La honte parce qu'ils ont vécu toutes sortes de choses, relations malsaines avec l'argent, puis c'est souvent des choses qu'on ne dira pas parce qu'on est gêné. On a honte. Mais Dieu, il ne vient pas culpabiliser, il ne vient pas condamner. Dieu, il vient libérer, il vient convaincre, il vient restaurer, il vient guérir. Puis ce matin, c'est un matin pour ça. Et j'ai prié pour ça. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole apporte la vie, Seigneur. Puis ce matin, c'est ça qu'on veut recevoir. Seigneur, on t'ouvre nos cœurs ce matin, puis on prie que tu viennes faire ton œuvre. Seigneur, tu connais tout de notre passé, tu connais tout de notre relation dans tous les domaines de notre vie, mais en particulier avec les finances. Mais Seigneur, on veut apprendre à te faire confiance. Seigneur, s'il y a eu de la mauvaise gestion, on te demande pardon, des mauvais choix. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous prends où on est, puis tu nous diriges, tu nous aides. Tu nous restaures, Seigneur. Je prie pour que tu viennes nous guérir de notre relation à l'argent, pour que ça devienne un outil, un serviteur que tu vas te servir et non pas un maître qui domine notre vie. Seigneur, tu es venu nous donner la vie puis la vie en abondance dans tous les domaines de notre vie. Puis on veut le vivre, Seigneur, parce que ce n'est pas juste une promesse pour après la mort. Ça commence maintenant. Seigneur, on veut recevoir ce que tu as pour nous. Viens prendre notre cœur. Viens tout prendre, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen.